RCF.
À la fois fascinant et terrifiant, obstacles et chemins, l'océan et la mer sont des éléments que l'homme a dû apprivoiser pour les comprendre et pour les traverser. C'est grâce au perfectionnement des bateaux, à l'ingéniosité des scientifiques et surtout au courage des marins que l'homme a pu aller de l'autre côté des mers et découvrir de nouveaux mondes. François Bellec, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes officier de marine, vous êtes ancien président de l'Académie de marine, vous êtes peintre et écrivain, toujours en lien très étroit avec le monde de la mer. Et vous êtes également vice-président de la Société de géographie. Vous publiez...
J'ai dirigé le musée de la marine pendant 18 ans aussi, hein, ce qui est
évidemment
quand même bon.
À Paris.
À Paris, bien sûr.
Vous publiez donc le tome 1 d'une histoire universelle de la navigation aux éditions de Monza. C'est une œuvre magistrale que nous allons donc évoquer dans cette émission à travers l'histoire de la navigation. Nous allons essayer de couvrir la période qui va de l'Antiquité jusqu'au 15e siècle à peu près, avec les grandes découvertes. Les sources, évidemment, sont innombrables. Les archives remplissent les bibliothèques et les musées. L'iconographie aussi est énorme. Comment est-ce qu'on s'attaque à une histoire universelle de la marine? Par quel bout est-ce qu'on prend les choses?
En fait, je suis rentré là-dedans un peu accidentellement, hein. Quand j'ai pris la direction du musée de la marine, je ne connaissais pas grand-chose sur l'histoire ni l'héritage maritime. Mais je suis allé voir les grands maîtres de l'histoire maritime à la Sorbonne, le professeur Meyer, le professeur Moulin du Jourdain, qui étaient les grands gourous de l'histoire. Et je suis allé leur demander un peu leur patronage, leur caution. Et en échange, ils m'ont demandé de m'intéresser à l'histoire de la navigation, parce qu'ils me disaient, nous sommes des littéraires, l'astronomie c'est pas notre truc. Bon, alors j'ai commencé à rentrer dans la question, et à cette époque-là, c'était quand même dans les années 80, hein, je vous parle vraiment du siècle dernier, hein. C'était un sujet qui n'était pas tellement connu, et donc j'ai découvert qu'il y avait un énorme sujet en friche, et je me suis enfoncé là-dedans. J'ai découvert beaucoup de choses passionnantes, j'ai découvert que dans le monde entier, il y avait eu des initiatives, que l'Occident finalement était parti très tard, mais c'était lui qui avait réussi à faire une navigation conquérante. J'ai découvert qu'il s'était passé beaucoup de choses au Portugal, et puis surtout que c'était une aventure humaine fantastique. Et donc, voilà, je suis plongé là-dedans avec bonheur.
Les archives, encore une fois, sont innombrables?
Alors, on trouve des documents dans la littérature antique, oui. On trouve des documents en Chine, très peu de documents arabes. Les Scandinaves ont un fond intéressant. Et le Portugal, qui pratiquement a tout inventé pour l'Occident, a perdu beaucoup de ses archives dans le séisme de Lisbonne en 1755. Et finalement, on s'aperçoit qu'on ne sait pas tellement de choses. Alors on sait des choses, mais il ne faut pas s'imaginer qu'on a énormément de documents. Donc il faut, à partir de tout ça, faire des synthèses, trier.
Reconstituer les choses.
Et c'est ce que je me suis... ça m'a passionné de faire ça, de façon à savoir qui avait fait quoi, qui avait inspiré les autres, qui avait été novateur. C'est un sujet passionnant.
Est-ce qu'on peut dire que l'homme a toujours eu envie ou besoin d'approcher de la mer, de l'océan, d'essayer d'apprivoiser cet élément?
Oui, tout à fait. Enfin, dès que l'homme s'est aperçu qu'en montant sur un tronc d'arbre, on flottait, qu'en agitant les mains, ça avançait, qu'en dressant une palme, ça prenait un peu le vent, il a découvert un moyen de transport extraordinaire. C'est pas par hasard que les Vikings d'un côté et les Phéniciens de l'autre ont été des précurseurs et de très grands navigateurs. Ce sont deux pays qui sont montagneux, où la circulation terrestre est pas facile, était très difficile autrefois, et donc la voie maritime a été la voie naturelle des Phéniciens le long des monts du Liban et des Vikings le long de la Scandinavie. Donc l'homme a tout de suite compris l'intérêt des navires en améliorant la pirogue élémentaire, le faisceau de joncs, les outres gonflées d'air, etc. Il s'est mis à fabriquer des bateaux élémentaires, puis de plus en plus importants, des bateaux qui très curieusement tout autour du monde ont eu la même forme, parce qu'il n'y a pas 40 solutions pour fabriquer un bateau. Il faut qu'il ait une certaine forme pour tenir sur l'eau, qu'il puisse avancer, il doit être pointu d'un bout, il faut mettre un gouvernail de l'autre côté.
Finalement, ça, on retrouve ces éléments-là à peu près aux quatre coins du globe quand on s'intéresse à l'histoire de la navigation.
Tout à fait. Et pratiquement 4000 ans avant notre ère, on trouve des graffitis sur les rochers du Haut-Nil qui montrent des bateaux élémentaires, et on trouve exactement les mêmes sur des rochers en Scandinavie laissés par les populations pré-vikings. Ce qui est assez merveilleux, c'est ça, c'est que l'homme a toujours conçu des bateaux de la même façon.
RCF, Véronique Alzieu.
La voile date de quelle époque ?
Alors la voile arrive aussi, dès le 4e millénaire, il y a un embryon de voile, et on trouve sur dans des tombes égyptiennes de 1500 avant Jésus-Christ, des dessins de bateaux phéniciens, remarquablement dessinés. Les phéniciens étaient devenus les transporteurs de la Méditerranée. Ils transportaient le blé d'Égypte d'Alexandrie à Ostie. C'était donc 2 millénaires avant notre ère, le bateau existait et n'a été qu'amélioré jusqu'à nos jours.
Qu'est-ce qui pousse l'homme à prendre la mer, à s'engager sur les eaux?
Alors, le cabotage maritime est universel. En Méditerranée, la Méditerranée a été irriguée tout autour par un flux de navigation au cabotage. Fernand Braudel.
Qu'est-ce que vous appelez le cabotage?
Le cabotage, c'est la navigation en vue de terre, je dirais. Fernand Braudel a parlé du fleuve Méditerranée, qui décrit bien ce phénomène. Il n'y a pas tellement besoin de traverser la Méditerranée en droiture. On pouvait longer le littoral. D'ailleurs, les premiers périples écrits donnaient des notions de distance, de points remarquables, en amer remarquable, en port remarquable. Donc, ça s'est passé comme ça en Méditerranée. Les premiers peuples ont tous été des peuples naviguant au cabotage. Et ce qui a lancé la haute mer, c'est la route de la soie. La route des épices et de la soie.
Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
C'est véritablement ce qui est le déclenchement de la navigation hauturière, c'est-à-dire en pleine mer. Ça a commencé dans l'océan Indien vers 750. Où la route de la soie, qui était une vieille route avec un écheveau de pistes caravanières, les chameaux à travers la Bactriane de la route des déserts, les chevaux de la route des steppes par le nord de la Caspienne, qui allait de Xi'an en Chine jusqu'à Constantinople, a été complétée par une route maritime en 750. On a des témoignages. Ben on s'est aperçu que après les grandes invasions barbares qui rendaient les routes très dangereuses, en raison du grand nombre de brigands des grands chemins et puis de seigneurs qui demandaient des taxes, on s'est aperçu que finalement la voie maritime c'était pas mal, c'était dangereux aussi, mais c'était un moyen d'abord de mettre sur un seul bateau l'équivalent de plusieurs centaines de chameaux et de transporter des choses sans rupture de charge, sans payer des taxes à personne, en affrontant éventuellement du mauvais temps. Donc la route maritime de la soie a été la première grande route maritime qui partait de Chine, de Changzhou, que les Arabes appelaient Zaytoun et que les Portugais appelaient Sétim. C'est de là que vient le mot satin. Donc elle partait et elle allait jusqu'au fond de la mer Rouge et du golfe arabo-persique, où elle était reprise par des caravanes qui l'amenaient en Méditerranée.
Il a fallu adapter les bateaux pour cette nouvelle forme de navigation au long cours?
C'est-à-dire que c'est un peu le contraire, c'est quand les peuples ont été capables de construire des vrais bateaux qu'ils ont pu se lancer en haute mer. Les Chinois, par exemple, ont attendu le milieu du XIIIe siècle pour se lancer en haute mer, mais ils ont construit à ce moment-là des bateaux qui surclassaient les bateaux arabes.
Pourquoi ?
Parce que leurs bateaux étaient mieux construits, ils avaient plus de bois. La possibilité d'avoir des bois de longue dimension a conditionné la construction navale. Les bateaux arabes étaient des bateaux cousus, des tas de petits morceaux cousus. C'était pas très solide, ça tenait pas tellement la route. Alors que les Chinois ont construit des bateaux qui avaient des cloisons étanches, qui étaient très robustes, très solides, qui étaient très gros. C'est eux qui ont remplacé le monopole persan de la route maritime. À l'arrivée des Song du Sud, on est vers 1250, et les Chinois à ce moment-là sont rentrés dans l'océan Indien et ont été à leur tour les grands transporteurs. Cette route de la soie, ça a été vraiment la motivation des découvertes, l'une des deux grandes motivations des découvertes.
Quelles sont les conséquences, justement, de cette nouvelle route qui s'ouvre et qui offre des possibilités extraordinaires?
C'est le début de ce grand commerce international. Vous demandiez tout à l'heure ce qui avait poussé les peuples vers la mer. Bien, il est quand même intéressant de constater que la grande majorité de la population terrestre actuellement vit à proximité de la mer et que le bateau continue à transporter 95% des transports du monde entier. Donc le bateau a été le moyen de connecter les peuples, de transporter les cultures, de transporter les religions. L'islam, le bouddhisme se sont transportés par voie maritime.
Et le christianisme aussi, finalement.
Et les Portugais, plus tard, ont utilisé leur bateau pour aller christianiser l'Asie et l'Inde.
Vous parliez de conditions dangereuses. quels étaient les principaux dangers à ce moment-là?
D'abord, la mer a fait peur très longtemps. On verra ça alors quand les Portugais rentrent dans la mer. La mer est extrêmement dangereuse, au point d'ailleurs que l'on a respecté partout très longtemps un mare clausum depuis l'Antiquité. Toutes les populations maritimes ont renoncé à naviguer pendant l'hiver. On naviguait l'été.
Donc ce qu'on craignait le plus, c'était quoi? Les intempéries, finalement?
Les intempéries, oui. C'est-à-dire que les bateaux qui n'avaient pas de moyens de navigation, de positionnement sûr, et qui étaient quand même des bateaux très précaires, des petits bateaux en bois de faible dimension, ça faisait 30 mètres, 60 mètres au très grand maximum, on se hasardait pas par une très mauvaise mer.
Donc on ne naviguait pas l'hiver.
On naviguait pas l'hiver, non, et ça a duré très longtemps. La météorologie a conditionné très longtemps les transports maritimes. Par exemple, la mousson dans l'océan Indien faisait que on naviguait vers l'est ou vers l'ouest quand la mousson était dans le bon sens. Et quand on avait raté la mousson, on pouvait attendre 4 mois, 5 mois, 6 mois que le vent revienne dans le bon sens. Le vent a été toujours le conditionneur de tous les voyages maritimes. Donc le voyage maritime à la voile est resté dangereux très longtemps. Plus la piraterie qui sévissait déjà et qui continue d'ailleurs.
On se retrouve demain, François Bellec, pour poursuivre. Merci beaucoup.